Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'ANCEIS. Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver à Radio B pour cette nouvelle émission de Socialement Vôtre. Alors, pour cette troisième chronique co-animée avec Manu Poulet, formateur à l'ANCEIS à Bourg-en-Bresse, École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale, nous allons aborder un sujet qui nous touche de près ou de loin et qui, comme nous le verrons, nous concerne tous. Visible ou invisible, autant de formes que de discours, aujourd'hui nous parlerons du handicap, plus précisément de l'accompagnement et de l'inclusion des personnes en situation de handicap grâce au témoignage d'une professionnelle. Nous accueillons Marie Assumel, éducatrice spécialisée libérale, qui nous présentera sa pratique du métier d'ES, éducatrice spécialisée, auprès des publics qu'elle accompagne. Je laisse donc la parole à Manu Poulet pour animer cet échange.
Merci Clémence et bienvenue Marie Assumel. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer non seulement ton métier, mais aussi ton regard sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, tel que tu le vis au quotidien. Ancienne étudiante de l'ANCEIS, tu es maintenant éducatrice spécialisée. Peux-tu nous dire en quoi consiste ton travail ?
Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. En effet, je suis éducatrice spécialisée. Le travail des éducs est assez vaste, ce qui est très riche. Nous sommes des professionnels du quotidien. Nous accompagnons des enfants, des adolescents, des adultes rencontrant des difficultés, que ce soit scolaires, personnelles, psychiques, des handicaps moteurs, mentaux, handicaps invisibles, enfin voilà, c'est très vaste. En général, les éducs-spé sont en institution, rattachés à un établissement. Ils coordonnent les équipes, élaborent les projets des usagers, bénéficiant de l'accompagnement de ces institutions. Ils ont également un travail important dans le partenariat et le réseau. Depuis 5 ans à peu près, j'exerce à temps partiel au CEDA1. Il s'agit du Centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme à Bourg-en-Bresse. Nous sommes une antenne du Centre ressources autisme de la région Rhône-Alpes, qui se situe à Lyon. Il s'agit de réaliser des bilans diagnostiques lorsqu'un enfant ou un adolescent, puisque le CEDA1 réalise essentiellement des diagnostics pour les enfants de moins de 18 ans, qui présentent une suspicion de TSA.
Alors, pour nos auditeurs, TSA, ça signifie ?
C'est le trouble du spectre de l'autisme.
Merci.
Et donc, depuis un peu plus de 3 ans, j'exerce aussi en libéral. J'accompagne des enfants, des adolescents, mais également des adultes avec TSA, pour la majorité, puisque j'accompagne aussi des enfants ayant des troubles de l'attention ou autres. J'interviens donc dans les écoles, à domicile. Et également dans mon cabinet que j'ai ouvert il y a un an avec ma collègue neuropsychologue et un autre collègue qui est éducateur sportif. Donc du coup, dans ce cadre-là, je peux être amenée à accompagner dans la vie quotidienne, donc c'est-à-dire à accompagner au niveau de leur autonomie. J'ai aussi une grosse partie de mon travail qui est de guider les parents dans la mise en place des outils, de leur redonner un peu la main, de les aider à avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de leur enfant. Mais c'est aussi accompagner les enseignants et les AESH, les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap, dans la mise en place des outils, des aménagements qui leur sont conseillés après des bilans, à comprendre certains comportements qui peuvent être assez déstabilisants. C'est aussi un accompagnement dans la socialisation, les émotions et la communication. Nous animons également des groupes d'habilité sociale pour tous les enfants, ados ou jeunes adultes rencontrant des difficultés dans la relation aux autres, dans la communication sociale, afin de les aider dans l'inclusion sociale. Et depuis cette année, avec l'ouverture du cabinet, nous proposons des groupes d'habilité parentale de type Barclay qui permettent aux parents de leur donner des outils concrets dans les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs enfants au quotidien. On a aussi des groupes de parole pour les parents et la famille, comme les grands-parents, les oncles, les tantes. Et également, moi, ça fait plusieurs années que je, notamment lié à mon travail à domicile, où j'observe la souffrance des fratries et leur besoin de pouvoir être entendus. Donc depuis quelques semaines, nous organisons aussi des groupes fratries et des groupes Asperger pour les adultes TSA. Mais le travail de l'éducateur spécialisé, c'est aussi le travail de partenariat avec les différents professionnels qui gravitent autour de l'enfant, de l'ado ou de l'adulte. C'est être à l'écoute de la famille dans sa globalité avec bienveillance et surtout un lien de confiance qui est essentiel.
Alors justement, tu l'as évoqué à l'instant, tu disais que tu intervenais notamment à l'école et ou au domicile des parents. Alors pour moi, cela fait écho à la notion d'inclusion, qui est l'un des principes fondamentaux de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, qui est un texte essentiel pour le secteur médico-social. Alors comment ce principe d'inclusion se traduit-il sur le terrain ?
Alors pour commencer, j'aimerais pouvoir rappeler ce que c'est l'inclusion avec une définition. Donc la première chose que l'on voit dans le dictionnaire, c'est action d'inclure quelque chose dans un tout, un ensemble, état de quelque chose qui est inclus dans autre chose. Mais on a aussi l'inclusion que l'on pense justement, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui au niveau du social, c'est l'action d'intégrer une personne, un groupe, de mettre fin à leur exclusion sociale notamment. Donc je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé mes études d'éduc, nous parlions d'intégration. Et quand j'ai justement commencé ma formation, l'inclusion commençait à faire son apparition. On n'aimait plus trop le terme d'intégration, on pensait désintégration, intégration, enfin c'était pas très joli. Et l'inclusion, je me rappelle un formateur qui nous disait « l'inclusion c'est plus joli parce que c'est faire partie d'un tout, c'est être inclus dans un tout, et c'est en contradiction de l'exclusion ». Donc tous les handicaps, qu'ils soient mentaux, psychiques, moteurs, étaient isolés dans des institutions. Je me rappelle quand le métier d'éducateur est apparu, ça doit faire même une soixantaine d'années maintenant, c'était vraiment, on mettait les personnes dans des institutions, dans des établissements. Et avec cette idée d'inclusion, c'est justement de faire sortir le handicap de ces institutions pour qu'ils retrouvent un peu leur plein droit citoyen, qu'ils aient leur place dans la société. L'inclusion, c'est l'inclusion scolaire également. D'ailleurs, dans la loi de 2005, c'est priorité au milieu ordinaire. Puis, en fonction des besoins et de la personne, on va orienter plutôt vers des milieux adaptés, voire même spécialisés.
Et donc, l'inclusion, ça ne concerne que la scolarité et les enfants ?
Non, c'est aussi l'inclusion dans le milieu professionnel. D'ailleurs, les entreprises ont une obligation, normalement, d'avoir un certain quota de personnes avec handicap dans leur équipe. C'est également l'accessibilité des lieux publics, comme ça a été au niveau des rampes, des ascenseurs, d'avoir des espaces assez larges pour accueillir des fauteuils roulants, par exemple. Mais c'est aussi l'accès à la culture ou encore à la citoyenneté. À ce sujet, par exemple, le code électoral indique clairement que les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les conditions fixées par le décret. Et je repense également que dans les établissements médico-sociaux, on a le CVS également pour pouvoir commencer à inculquer les droits de vote, d'élection, etc.
D'accord. Alors, pour revenir justement sur la question de la scolarisation en milieu que l'on dit ordinaire de tous les enfants en situation de handicap, est-ce que cela peut vouloir dire qu'il ne doit plus y avoir aucun établissement ? Alors je te pose la question parce qu'en 2019, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'inclusion des élèves handicapés justement soulignait que la scolarisation en établissement spécialisé est une solution qui n'est pas sans défaut, mais dont l'utilité reste avérée. Quel est ton regard sur cet aspect ?
Je dirais que l'inclusion est une vraie chance. Et pour les familles, c'est vraiment un combat de tous les jours que leur enfant puisse avoir une place dans une école. Malheureusement, cette inclusion n'est pas toujours possible. Pour que l'inclusion soit possible, il est nécessaire que des moyens soient donnés aux établissements scolaires et aux entreprises également. Par endroit, il manque d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, les AESH dont je parlais tout à l'heure. Ces accompagnants sont très peu formés et leur poste très peu valorisé. Et pourtant, sans leur présence, certains élèves en situation de handicap ne pourraient pas être accueillis à l'école, au collège ou au lycée. Les enseignants également, à mon sens, et pour en avoir discuté aussi avec certains d'entre eux, malgré toute leur bonne volonté, il manque également de formation sur le handicap. Pourtant, si je parle de ce que je connais, comme les troubles du neurodéveloppement, Qui comprend donc les TSA, les différents troubles des apprentissages, comme les troubles de l'attention, les dysgraphies, dysorthographies, enfin tous les disques que l'on peut entendre, sont de plus en plus présents dans les classes, ou en tout cas de mieux en mieux repérés. Et je ne peux m'empêcher de penser que si on formait les enseignants pendant leur cursus sur le fonctionnement de ces élèves et les stratégies pédagogiques qui sont efficaces, ce serait vraiment bénéfique pour eux. Et pas seulement pour les enfants en situation de handicap. Certaines méthodes fonctionneraient aussi très très bien avec d'autres élèves plus ordinaires, on va dire. Après, comme tout, nous retrouvons des aspects positifs et des limites au système. Et l'inclusion, pour moi, a certaines limites. Chercher l'inclusion à tout prix n'est pas toujours bénéfique et peut parfois avoir l'effet inverse chez certaines personnes. Et dans ce cas, le milieu protégé est la solution la plus adaptée, puisque pour certains enfants, l'anxiété peut même monter d'être scolarisé en milieu ordinaire ou de vouloir absolument à tout prix l'inclusion. Il s'agit donc pour moi, en tout cas, de prendre en compte l'intérêt de la personne et son bien-être avant toute chose.
Alors justement, c'est intéressant. Pour mieux prendre en compte l'intérêt de la personne et, comme tu le dis très bien, pour penser à son bien-être avant tout, quelles pourraient être les pistes pour améliorer encore la prise en compte de ces personnes ?
Comme je le disais tout à l'heure, je pense déjà le point essentiel et où ce serait vraiment important de travailler, c'est déjà la formation des enseignants, dans une première partie. Mais il faut également que chacun à son niveau soit sensibilisé à cette question, car l'inclusion, de fait, ne doit pas rester la préoccupation des personnes en situation de handicap et des professionnels, mais doit être l'affaire de tous. Notamment, je repense aux parents qui vont dans les centres commerciaux avec leurs enfants et qui vont faire... l'enfant va faire une crise parce que trop de stimulation sensorielle, par exemple, à ce moment-là, ou une fatigue. Et souvent, les parents me disent « mais c'est horrible avec le regard des autres, ils nous jugent, ils pensent que notre enfant est mal élevé », alors que ce n'est pas du tout ça. Et si le public était déjà plus sensibilisé à cette question, il y aurait peut-être plus de bienveillance.
Marie, je te remercie. Nous arrivons au terme de notre échange. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et partagé ton expérience. Je conclurai en citant Denis Piveteau, donc c'est un conseiller d'État, l'ancien directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et qui est l'auteur notamment d'un rapport sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap en février 2022. Et Denis Piveteau donc explique que choisir un métier du travail social, c'est se donner le pouvoir d'agir avec les personnes que l'on accompagne pour faire advenir une société inclusive.
C'est la fin de cette émission. Merci Manu Poulet, merci Marie pour ce témoignage. Merci aux auditeurs aussi et auditrices qui nous écoutent. Je rappelle que vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur le site de Radio B. Allez, comme à notre habitude, voici quelques dates à retenir. Donc pour terminer 2022, l'Anseis de Lain ouvre ses portes demain, samedi 10 décembre, pour présenter ses parcours de formation en travail social. Du CAP accompagnant éducatif petite enfance, c'est l'ancien CAP petite enfance, au Café Ruisse, en passant par les diplômes d'État d'assistant de service social, éducateur spécialisé ou encore éducateur jeunes enfants, les étudiants et les formateurs sont là pour répondre à vos questions. On part en 2023, jeudi 12 janvier à 18h, à l'amphi de l'Anseis, avec la conférence impromptue « Ce que sanctionner veut dire », avec comme invité Éric Préra, qui est professeur de philosophie de l'éducation à l'Université de Lorraine, mais aussi chercheur associé au groupe de recherche en éthique de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Je rappelle que les conférences impromptues sont ouvertes au public et sont gratuites. Du 19 au 21 janvier 2023, retour en présentiel du salon « Information métier » à Interexpo. Ce forum donne aux collégiens, mais pas seulement, des clés pour réussir leur orientation dans le monde professionnel. Ce salon présente 15 filières de formation et de métiers qui recrutent dans l'Ain, ainsi qu'une filière transversale. En janvier, l'équipe de Socialement Vôtre vous parlera éducation, en lien bien évidemment avec la Journée internationale de l'éducation. D'ici là, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et cap sur 2023. Socialement Vôtre, votre chronique du travail social dans l'Ain, proposée par l'Anseis.